Sélection numéro 1. Vous aurez d'abord 4 minutes pour lire la source numéro 1. Arrêtez de lire. Maintenant, allez à la source numéro 2. Vous aurez 2 minutes pour lire l'introduction et parcourir les questions. Maintenant, écoutez la source numéro 2.
Plus besoin de mettre au fond d'un placard le CD de Mylène Farmer que vous avez en doublon, voire triple. Et pour ne pas avoir d'état d'âme, sachez qu'à peine sortis de leur paquet, 18 millions de cadeaux non désirés vont être mis en ligne sur les sites d'achat-vente entre particuliers. Alors, citons eBay, Price Minister, ou du commerce Amazon deux fois moins cher, soit 20% de plus qu'en 2008, selon une étude TNS pour le site de vente aux enchères eBay. Auparavant, aller dans un magasin pour se faire rembourser un cadeau était un peu difficile. Sur Internet, ça prend quelques secondes de mettre un livre en vente, a confié Pierre Kosciusko-Morizet, le PDG de Price Minister, à l'AFP. Les particuliers sont complètement décomplexés et crise oblige, ceux qui n'auraient jamais osé se rendre dans un magasin pour se faire rembourser apprécient l'anonymat de la vente en ligne. Selon une étude de Web Surveyor menée en décembre pour le compte de Price Minister, quelques 33% des internautes se disent insatisfaits des cadeaux qu'ils ont reçus et quelques 14,1% ont déjà revendu leurs cadeaux de Noël. Alors qu'on leur demande pourquoi ils revendent leurs cadeaux, 47% répondent tout simplement parce qu'ils ne leur plaisaient pas, 43% qu'ils n'en avaient pas l'usage, 32% qu'ils l'avaient en double et 3% déclarent préférer l'argent. Les produits les plus revendus sont les livres, les CD, DVD et autres jeux vidéo qu'il ne faut surtout pas déballer pour ainsi prouver qu'ils sont neufs lorsque vous voulez le vendre. Et l'acheteur potentiel se dira qu'il va faire une bonne affaire. Choisissez également de mettre un prix fixe. N'hésitez pas à faire valoir la baisse par rapport au prix public. La cote des produits qui figurent chaque année en tête de vente après Noël baisse rapidement. Alors ne perdez donc pas de temps pour vous en débarrasser. Et pourquoi pas racheter par la suite le cadeau auquel vous rêviez.
Maintenant, vous aurez une minute pour commencer à répondre aux questions pour cette sélection. Après une minute, vous écouterez la sélection une deuxième fois. Maintenant, écoutez de nouveau.
Plus besoin de mettre au fond d'un placard le CD de Mylène Farmer que vous avez en doublon, voire triple. Et pour ne pas avoir d'état d'âme, sachez qu'à peine sortis de leur paquet, 18 millions de cadeaux non désirés vont être mis en ligne sur les sites d'achat-vente entre particuliers. Alors, citons eBay, Price Minister, ou du commerce Amazon deux fois moins cher, soit 20% de plus qu'en 2008, selon une étude TNS pour le site de vente aux enchères eBay. Auparavant, aller dans un magasin pour se faire rembourser un cadeau était un peu difficile. Sur Internet, ça prend quelques secondes de mettre un livre en vente, a confié Pierre Kosciusko-Morizet, le PDG de Price Minister, à l'AFP. Les particuliers sont complètement décomplexés et crise oblige, ceux qui n'auraient jamais osé se rendre dans un magasin pour se faire rembourser apprécient l'anonymat de la vente en ligne. Selon une étude de Web Surveyor menée en décembre pour le compte de Price Minister, quelques 33% des internautes se disent insatisfaits des cadeaux qu'ils ont reçus et quelques 14,1% ont déjà revendu leurs cadeaux de Noël. Alors qu'on leur demande pourquoi ils revendent leurs cadeaux, 47% répondent tout simplement parce qu'ils ne leur plaisaient pas, 43% qu'ils n'en avaient pas l'usage, 32% qu'ils l'avaient en double et 3% déclarent préférer l'argent. Les produits les plus revendus sont les livres, les CD, DVD et autres jeux vidéo qu'il ne faut surtout pas déballer pour ainsi prouver qu'ils sont neufs lorsque vous voulez le vendre. Et l'acheteur potentiel se dira qu'il va faire une bonne affaire. Choisissez également de mettre un prix fixe. N'hésitez pas à faire valoir la baisse par rapport au prix public. La cote des produits qui figurent chaque année en tête de vente après Noël baisse rapidement. Alors ne perdez donc pas de temps pour vous en débarrasser. Et pourquoi pas racheter par la suite le cadeau auquel vous rêviez.
Maintenant, finissez de répondre aux questions pour cette sélection. Sélection numéro 2. Vous aurez d'abord une minute pour lire la source numéro 1. Arrêtez de lire. Maintenant, allez à la source numéro 2. Vous aurez une minute pour lire l'introduction et parcourir les questions. Maintenant, écoutez la source numéro 2.
Alors, Claude, prêt à marcher avec moi toute la journée?
Oui, et je te remercie de cette bonne idée. Quel temps idéal pour faire une petite randonnée?
Ça aurait été vraiment dommage que tu restes seulement à Québec sans découvrir le reste de la région. Le parc du Bic est un de mes endroits préférés. J'avais vraiment envie de te le faire connaître.
Nathalie, je ne sais pas comment te remercier. Les montagnes, le fleuve, c'est tellement beau. Quand tu viendras me voir en France, je te ferai aussi visiter nos plus belles régions.
Oh, ce serait fantastique! Tu verras, si on a de la chance aujourd'hui, on va pouvoir voir des baleines aussi. Mais il faut qu'on se mette à marcher. Sinon, on ne verra pas grand-chose en une journée.
Allons-y, mais tu sais, j'ai déjà faim. Le voyage de Québec à ici m'a ouvert l'appétit.
Claude, on a pourtant bien mangé avant de partir.
Je sais, mais ça doit être le grand air. Dis, qu'est-ce que tu as dans ton sac?
J'ai emporté des fruits, des sandwichs pour ce midi. Et si tu veux grignoter quelque chose, j'ai aussi des barres énergétiques.
Dis donc, tu es préparée. Tu en emportes toujours autant d'habitude?
Ça dépend. J'essaie surtout d'avoir un sac léger. Mais j'ai tendance à changer à chaque fois.
Il paraît que les amandes, les noisettes sont super. Elles t'apportent plein de protéines. Tu en as?
Ah non, pas aujourd'hui. Mais tiens... Prends une barre énergétique si tu veux. Avec un peu de chance, ça te tiendra jusqu'à midi.
Je ne peux pas avoir un sandwich plutôt?
Mais je n'en ai pas assez préparé. Si tu manges le tien maintenant, tu n'en auras plus pour plus tard. Ton dîner, il faut le mériter.
Maintenant, vous aurez une minute pour commencer à répondre aux questions pour cette sélection. Après une minute, vous écouterez la sélection une deuxième fois. Maintenant, écoutez de nouveau.
Alors, Claude, prêt à marcher avec moi toute la journée?
Oui, et je te remercie de cette bonne idée. Quel temps idéal pour faire une petite randonnée?
Ça aurait été vraiment dommage que tu restes seulement à Québec sans découvrir le reste de la région. Le parc du Bic est un de mes endroits préférés. J'avais vraiment envie de te le faire connaître.
Nathalie, je ne sais pas comment te remercier. Les montagnes, le fleuve, c'est tellement beau. Quand tu viendras me voir en France, je te ferai aussi visiter nos plus belles régions.
Oh, ce serait fantastique! Tu verras, si on a de la chance aujourd'hui, on va pouvoir voir des baleines aussi. Mais il faut qu'on se mette à marcher. Sinon, on ne verra pas grand-chose en une journée.
Allons-y, mais tu sais, j'ai déjà faim. Le voyage de Québec à ici m'a ouvert l'appétit.
Claude, on a pourtant bien mangé avant de partir.
Je sais, mais ça doit être le grand air. Dis, qu'est-ce que tu as dans ton sac?
J'ai emporté des fruits, des sandwichs pour ce midi, et si tu veux grignoter quelque chose, j'ai aussi des barres énergétiques.
Dis donc, tu es préparé. Tu en emportes toujours autant d'habitude?
Ça dépend. J'essaie surtout d'avoir un sac léger. Mais j'ai tendance à changer à chaque fois.
Il paraît que les amandes, les noisettes sont super. Elles t'apportent plein de protéines. Tu en as?
Ah non, pas aujourd'hui. Mais tiens, prends une barre énergétique si tu veux. Avec un peu de chance, ça te tiendra jusqu'à midi.
Je ne peux pas avoir un sandwich plutôt?
Mais je n'en ai pas assez préparé. Si tu manges le tien maintenant, tu n'en auras plus pour plus tard. Ton dîner, il faut le mériter.
Maintenant, finissez de répondre aux questions pour cette sélection. Sélection numéro 3. Vous aurez d'abord une minute pour lire l'introduction et parcourir les questions. Maintenant, écoutez la sélection.
L'écrivain voyageur aime beaucoup venir à Beyrouth et il est ici très attendu, espéré. Et quand il se pose quelque part pour se prêter au jeu du question-réponse avec ses lecteurs libanais, on parle littérature, mais on parle aussi beaucoup politique. Jean-Marie Le Clézio n'était pas venu ici depuis 8 ans. Il trouve le pays changé et en progrès, même s'il n'y a pas de gouvernement depuis les élections de juin dernier, depuis près de 5 mois.
Je crois que ce sont les Libanais qui ont la solution. Ils l'ont trouvé à plusieurs reprises, donc nous pouvons être optimistes. Le Liban, c'est un pays pluriculturel, pluriconfessionnel, mais surtout pluriculturel. Il faut aller vers l'interculturel. Il faut que les communautés se rencontrent et cela dépend vraiment des Libanais. Ce sont eux à le faire. Et donc, chaque manifestation qui permet la rencontre est bonne et portera des fruits. Mais il faut les multiplier. Ça, c'est indispensable. Et je crois que du sort du Liban dépend, pour une grande partie, le sort de ce côté de la planète. Le Liban détient les clés de l'avenir de l'Europe, les clés de la rencontre entre la Turquie et l'Europe, par exemple, les clés de la, comment dire, de l'acception de l'immigration en Europe. Tout ce qui pose problème en Europe pose problème au Liban d'abord. Et donc, si le Liban résout ses problèmes, l'Europe pourra pousser un soupir de soulagement parce que ça veut dire que eux pourront résoudre leurs problèmes.
Vous croyez que les écrivains, les intellectuels peuvent arriver à aider à faire progresser les choses?
Oui, je pense que oui. J'ai rencontré à plusieurs reprises des personnes qui appartiennent, par exemple, à la communauté chiite ou bien qui appartiennent à des mouvements et j'ai vu que c'est vraiment possible de parler. Il y a un besoin de se rencontrer. Parce que quand vous, ne serait-ce qu'à Beyrouth, quand vous allez dans les quartiers très nécessiteux qui se trouvent à l'est de Beyrouth, vous voyez qu'il y a une vraie demande de rencontre. Vous sentez ce besoin de s'exprimer. Donc il faut absolument que la rencontre ait lieu. Si la rencontre n'a pas lieu, ce sera la guerre. Et c'est la rencontre ou la guerre. Il n'y a pas d'autre choix que cela.
Le 16e Salon du Livre francophone referme ses portes ce soir. Diane Galliot, Beyrouth, RFI.
Maintenant, vous aurez 1 minute pour commencer à répondre aux questions pour cette sélection. Après 1 minute, vous écouterez la sélection une deuxième fois. Maintenant, écoutez de nouveau.
L'écrivain voyageur aime beaucoup venir à Beyrouth et il est ici très attendu, espéré. Et quand il se pose quelque part pour se prêter au jeu du question-réponse avec ses lecteurs libanais, on parle littérature, mais on parle aussi beaucoup politique. Jean-Marie Le Clézio n'était pas venu ici depuis 8 ans. Il trouve le pays changé et en progrès, même s'il n'y a pas de gouvernement depuis les élections de juin dernier, depuis près de 5 mois.
Je crois que ce sont les Libanais qui ont la solution. Ils l'ont trouvé à plusieurs reprises, donc nous pouvons être optimistes. Le Liban, c'est un pays pluriculturel, pluriconfessionnel, mais surtout pluriculturel. Il faut aller vers l'interculturel. Il faut que les communautés se rencontrent et cela dépend vraiment des Libanais, ce sont eux à le faire. Et donc chaque manifestation qui permet la rencontre est bonne et portera des fruits, mais il faut les multiplier, ça c'est indispensable. Et je crois que du sort du Liban dépend, pour une grande partie, le sort de ce côté de la planète. Le Liban détient les clés de l'avenir de l'Europe, les clés de la rencontre entre la Turquie et l'Europe, par exemple, les clés de la, comment dire, de l'acception de l'immigration en Europe. Tout ce qui pose problème en Europe pose problème au Liban d'abord. Et donc, si le Liban résout ses problèmes, l'Europe pourra pousser un soupir de soulagement parce que ça veut dire que eux pourront résoudre leurs problèmes.
Vous croyez que les écrivains, les intellectuels peuvent arriver à aider à faire progresser les choses?
Oui, je pense que oui. J'ai rencontré à plusieurs reprises des personnes qui appartiennent par exemple à la communauté chiite ou bien qui appartiennent à des mouvements. Et j'ai vu que c'est vraiment possible de parler. Il y a un besoin de se rencontrer. Parce que quand vous, ne serait-ce qu'à Beyrouth, quand vous allez dans des quartiers très nécessiteux qui se trouvent à l'est de Beyrouth, vous voyez qu'il y a une vraie demande de rencontre. Vous sentez ce besoin de s'exprimer. Donc il faut absolument que la rencontre ait lieu. Si la rencontre n'a pas lieu, ce sera la guerre. Et c'est la rencontre ou la guerre. Il n'y a pas d'autre choix que cela.
Le 16e Salon du Livre francophone referme ses portes ce soir. Diane Galliot, Beyrouth, RFI.
Maintenant, finissez de répondre aux questions pour cette sélection. Sélection numéro 4. Vous aurez d'abord une minute pour lire l'introduction et parcourir les questions. Maintenant, écoutez la sélection.
Le document se présente effectivement sous la forme d'un passeport classique et fourmille de conseils, une batterie de recommandations grâce auxquelles les données stockées sur tous vos supports informatiques sont censées pouvoir passer les frontières en toute sécurité, car selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dans de nombreux pays, les centres d'affaires et les réseaux téléphoniques sont surveillés. Par ailleurs, l'agence rappelle que plus de 3000 ordinateurs portables sont déclarés perdus ou volés chaque semaine dans les grands aéroports européens, entraînant ainsi la dissémination dans la nature de certaines données sensibles pour les entreprises. C'est aussi une des raisons de la création de ce petit guide destiné aux salariés nomades. Le passeport recommande donc aux voyageurs de ne jamais se séparer de leurs appareils, ni même de les abandonner dans un coffre d'hôtel. Si vous devez impérativement vous séparer de vos téléphones portables et autres assistants personnels numériques, il est conseillé d'en retirer la carte SIM. Autre règle de base, utilisez de préférence le matériel de votre entreprise. La majorité des sociétés proposent à leurs salariés en déplacement des ordinateurs réservés à un usage strictement professionnel, des ordinateurs qui ne contiennent que des informations indispensables à leur mission. La sécurité de vos données passe aussi parfois par des actes relativement simples, comme placer un film de protection sur l'écran de l'ordinateur pour que votre voisin ne puisse pas le lire. Il est aussi recommandé de se méfier des clés USB ou des CD-ROM qu'on vous remet. Ils peuvent être piégés. Prendre donc soin de les vérifier avant de les utiliser. Par ailleurs, si les vols de données confidentielles se font à partir d'un support physique tel qu'un ordinateur portable, ils s'opèrent aussi via Internet. Il est donc plus prudent d'utiliser des connexions sécurisées pour transmettre des informations sensibles sur le réseau de votre entreprise. Le recours aux documents cryptés peut être une solution, mais attention, dans certains pays, le cryptage est interdit. Il est donc conseillé de s'informer sur la législation en vigueur sur le lieu de votre destination, et ces informations sont accessibles sur le site de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Enfin, en rentrant de voyage, une analyse complète des équipements qui vous ont accompagné est incontournable, avant une reconnexion au réseau de l'entreprise. Bref, ce guide, tiré à 10 000 exemplaires, propose toute une série de solutions techniques pour configurer les appareils de manière défensive. Tous ces conseils sont aussi disponibles et téléchargeables sur le site www.securite-informatique.gouv.fr/partir-en-mission.
Maintenant, vous aurez une minute pour commencer à répondre aux questions pour cette sélection. Après une minute, vous écouterez la sélection une deuxième fois. Maintenant, écoutez de nouveau.
Le document se présente effectivement sous la forme d'un passeport classique et fourmille de conseils, une batterie de recommandations grâce auxquelles les données stockées sur tous vos supports informatiques sont censées pouvoir passer les frontières en toute sécurité, car selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dans de nombreux pays, les centres d'affaires et les réseaux téléphoniques sont surveillés. Par ailleurs, l'agence rappelle que plus de 3000 ordinateurs portables sont déclarés perdus ou volés chaque semaine dans les grands aéroports européens, entraînant ainsi la dissémination dans la nature de certaines données sensibles pour les entreprises. C'est aussi une des raisons de la création de ce petit guide destiné aux salariés nomades. Le passeport recommande donc aux voyageurs de ne jamais se séparer de leurs appareils, ni même de les abandonner dans un coffre d'hôtel. Si vous devez impérativement vous séparer de vos téléphones portables et autres assistants personnels numériques, il est conseillé d'en retirer la carte SIM. Autre règle de base, utilisez de préférence le matériel de votre entreprise. La majorité des sociétés proposent à leurs salariés en déplacement des ordinateurs réservés à un usage strictement professionnel, des ordinateurs qui ne contiennent que des informations indispensables à leur mission. La sécurité de vos données passe aussi parfois par des actes relativement simples, comme placer un film de protection sur l'écran de l'ordinateur pour que votre voisin ne puisse pas le lire. Il est aussi recommandé de se méfier des clés USB ou des CD-ROM qu'on vous remet. Ils peuvent être piégés. Prendre donc soin de les vérifier avant de les utiliser. Par ailleurs, si les vols de données confidentielles se font à partir d'un support physique tel qu'un ordinateur portable, ils s'opèrent aussi via Internet. Il est donc plus prudent d'utiliser des connexions sécurisées pour transmettre des informations sensibles sur le réseau de votre entreprise. Le recours aux documents cryptés peut être une solution, mais attention, dans certains pays, le cryptage est interdit. Il est donc conseillé de s'informer sur la législation en vigueur sur le lieu de votre destination, et ces informations sont accessibles sur le site de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Enfin, en rentrant de voyage, une analyse complète des équipements qui vous ont accompagné est incontournable, avant une reconnexion au réseau de l'entreprise. Bref, ce guide, tiré à 10 000 exemplaires, propose toute une série de solutions techniques pour configurer les appareils de manière défensive. Tous ces conseils sont aussi disponibles et téléchargeables sur le site www.securite-informatique.gouv.fr/partir-en-mission.
Maintenant, finissez de répondre aux questions pour cette sélection. Sélection numéro 5. Vous aurez d'abord une minute pour lire l'introduction et parcourir les questions. Maintenant, écoutez la sélection.
Même si le nom Palais Royal peut donner l'impression qu'il s'agit de la résidence de la famille royale, aucun membre de la monarchie belge n'y a vécu depuis la mort de la reine Astrid. Elle était l'épouse de Léopold de Troyes et fut tuée dans un tragique accident de voiture en 1935. La famille royale décida depuis de vivre dans un palais plus spacieux, plus calme et au milieu d'un parc au nord de Bruxelles. Mais le palais royal au centre de Bruxelles reste la résidence officielle de la famille royale. Aujourd'hui, le palais royal est utilisé pour des réceptions d'État et comme bureau du roi. De plus, les visiteurs officiels peuvent loger dans les appartements d'hôtes s'ils les préfèrent aux hôtels de Bruxelles. Pour un petit parfum de Buckingham Palace, sachez que la relève de la garde a lieu tous les jours à 14h30. Et si vous voyez le drapeau flotter au vent depuis le toit du palais, c'est que le roi est dans les parages. Le palais royal fut construit au début du XIXe siècle. Cependant, moins d'un siècle plus tard, le roi Léopold II le fit transformer, comme tant d'autres, dans le style d'architecture que l'on peut voir aujourd'hui. Si vous aimez la monarchie, vous apprécierez le petit musée de la dynastie dans le coin du palais où sont exposés des tableaux et objets ayant appartenu aux familles royales durant des siècles. Le palais est également ouvert aux visiteurs mais uniquement en été, lorsque le roi est en vacances. Cette période de visite commence après le défilé annuel du 21 juillet, fête nationale, et s'achève début septembre. Après avoir visité le palais royal, vous pourriez avoir envie d'une petite promenade et d'un bol d'air frais. Vous ne devrez pas aller très loin, le parc de Bruxelles est de l'autre côté de la rue, quelques 150 000 mètres carrés où environ 20 terrains de football, de nature, sculptures et fontaines s'offrent à vous. Le parc et le palais royal se situent sur les terres autrefois occupées par la cour du Brabant, au Moyen Âge. Après un incendie et des échauffourées révolutionnaires, le parc fut transformé pour ressembler à ce qu'il est aujourd'hui. Même si le drapeau ne flotte pas au-dessus du palais royal et que vous savez que le roi est absent, vous pourriez quand même rencontrer des gens importants. Le Parlement belge est situé à l'autre bout du parc et les ministres vont parfois faire un petit tour dans ce petit écrin de verdure.
Maintenant, vous aurez une minute pour commencer à répondre aux questions pour cette sélection. Après une minute, vous écouterez la sélection une deuxième fois. Maintenant, écoutez de nouveau.
Même si le nom Palais Royal peut donner l'impression qu'il s'agit de la résidence de la famille royale, aucun membre de la monarchie belge n'y a vécu depuis la mort de la reine Astrid. Elle était l'épouse de Léopold de Troyes et fut tuée dans un tragique accident de voiture en 1935. La famille royale décida depuis de vivre dans un palais plus spacieux, plus calme et au milieu d'un parc au nord de Bruxelles. mais le palais royal au centre de Bruxelles reste la résidence officielle de la famille royale. Aujourd'hui, le palais royal est utilisé pour des réceptions d'État et comme bureau du roi. De plus, les visiteurs officiels peuvent loger dans les appartements d'hôtes s'ils les préfèrent aux hôtels de Bruxelles. Pour un petit parfum de Buckingham Palace, sachez que la relève de la garde a lieu tous les jours à 14h30. Et si vous voyez le drapeau flotter au vent depuis le toit du palais, c'est que le roi est dans les parages. Le palais royal fut construit au début du 19e siècle. Cependant, moins d'un siècle plus tard, le roi Léopold II le fit transformer, comme tant d'autres, dans le style d'architecture que l'on peut voir aujourd'hui. Si vous aimez la monarchie, vous apprécierez le petit musée de la dynastie dans le coin du palais où sont exposés des tableaux et objets ayant appartenu aux familles royales durant des siècles. Le palais est également ouvert aux visiteurs mais uniquement en été, lorsque le roi est en vacances. Cette période de visite commence après le défilé annuel du 21 juillet, fête nationale, et s'achève début septembre. Après avoir visité le palais royal, vous pourriez avoir envie d'une petite promenade et d'un bol d'air frais. Vous ne devrez pas aller très loin, le parc de Bruxelles est de l'autre côté de la rue, quelques 150 000 mètres carrés ou environ 20 terrains de football, de nature, sculptures et fontaines s'offrent à vous. Le parc et le palais royal se situent sur les terres autrefois occupées par la cour du Brabant, au Moyen Âge. Après un incendie et des échauffourées révolutionnaires, le parc fut transformé pour ressembler à ce qu'il est aujourd'hui. Même si le drapeau ne flotte pas au-dessus du palais royal et que vous savez que le roi est absent, vous pourriez quand même rencontrer des gens importants. Le Parlement belge est situé à l'autre bout du parc et les ministres vont parfois faire un petit tour dans ce petit écrin de verdure.
Maintenant, finissez de répondre aux questions pour cette sélection.
End of recording.